Bonjour, bienvenue sur Underscore, l'émission hebdomadaire qui décrypte l'univers numérique. Savez-vous planter Winds, à la mode de Bilou? Attends, quoi? Tu n'as pas encore installé Signal? Décidément, toi tu n'es pas à la mode. D'ailleurs, on va en parler.
On va en parler? De quoi? De Signal? De la mode?
Mais non, hein, t'es pas à la mode, enfin, t'as pas désinstallé ton WhatsApp?
Bonjour Cécile, bonjour Doudou
bonjour
et bonjour Madbelle.
Bonjour.
Coucou Cécile, Madbelle.
Et bonjour Doudou et bonjour Madbelle. Et puis bonjour les
bonjour
auditeurs.
Auditeurs.
Oui, de Radio Méga.
Alors effectivement, un petit peu de mode, Madbelle, tu t'es mis dans le vent cette fois?
Ouais, c'est la technologie qui automatise le créateur de mode.
Ouais, wow. On va pouvoir les virer, c'est cool.
On en parle tout de suite après un peu d'actu.
Allez, passons à l'actu.
L'or de la Rodière prend la présidence de l'ARCEP. Félicitations.
Oui, on vous avait parlé de son audition, mais apparemment ça s'est bien passé.
Free va supprimer le service Free Wi-Fi, le seul truc qui marchait quand t'avais pas de forfait 3G. On fait comment du coup? Déjà qu'il coupe les IP en 4.
Xavier, rends mon IP!
Ah bah t'as compris, hein?
Free permet d'activer IPv6 sur mobile. Ah, enfin une bonne nouvelle. Bon, faut savoir un mobile en plus de l'opportunité. Et attention, Android a encore des soucis avec l'IPv6 dans certains cas.
Nextcloud propose des migrations automatiques depuis les plateformes privatrices. Il n'y a plus de raison de ne pas s'échapper du nuage. Google Drive, Google Docs, Dropbox, OneDrive, tout est prévu.
Finalement, la fin du support d'Android 4 par Let's Encrypt est repoussée. Grâce à une bidouille, il devrait pouvoir être repoussé jusqu'en 2024.
Microsoft semble continuer à proposer la migration gratuite de Windows 7 et 8 vers Windows 10, alors que l'offre était censée finir en 2016. Visiblement, ils n'ont pas bloqué cette possibilité, peut-être pour contrer la concurrence de GNU Linux.
Chapril, le chaton de l'April, propose une forge logicielle. Contrairement à Framagit, qui utilise GitLab, celle-ci est basée sur Gitter, un autre logiciel libre de forge logicielle choisi pour sa légèreté ainsi que par souci de technodiversité.
Ouais, on dit Gitty, parce que le logo c'est une tasse de thé.
Ah ok, je sais pas.
Sanction de la CNIL contre PerformClick. Cette société de prospection commerciale a été signalée à la CNIL qui a retenu plusieurs manquements au RGPD et l'a donc mise à l'amende pour 7 300 €.
La Commission européenne enregistre l'initiative Reclaim Your Face. La Commission européenne enregistre l'initiative citoyenne visant à interdire la surveillance biométrique de l'espace public. Vous pouvez apporter votre soutien à l'initiative Reclaim Your Face en signant sur le site.
Ouais, déjà fait.
L'Allemagne déploie Moodle et BigBlueButton pour 600 000 élèves. La moitié des écoles allemandes vont pouvoir bénéficier de ces logiciels libres pour l'enseignement à distance. L'État allemand a investi 18 millions d'euros en 2 ans pour l'infrastructure et financer des évolutions des deux logiciels. Pendant ce temps, en France...
Même en Chine, certains s'opposent aux technologies de surveillance. La ville de Hangzhou est la première à encadrer l'usage de la reconnaissance faciale dans les résidences. Étrange pour la ville qui sert de siège au groupe Alibaba, un des géants du numérique.
WhatsApp ne changera pas ses conditions d'utilisation tout de suite. Ils ont juste repoussé de 3 mois les modifications pour lui permettre de nourrir Facebook avec les données récoltées, ce qui n'a pas empêché de nombreux utilisateurs de fuir la plateforme pour migrer sur d'autres applications comme Signal.
Et enfin, OpenStreetMap lance un sondage pour connaître la communauté de ses utilisateurs et avoir un retour sur les décisions prises par la fondation en 2020.
Voilà, c'est tout pour l'actu.
Petite pause.
Allez, à tout de suite.
Thank you.
c'est sympa ça.
Référence robot. C'est un Canadien qui fait cette musique.
C'est un Canadien, bah c'est cool.
Ah bah oui.
Si vous voulez retrouver les musiques qu'on vous passe, en général on trouve ça sur YouTube ou d'autres, ou SoundCloud parfois. Et bien sûr, on vous met les liens sur AAA.fr.
Et oui, et cette musique faisait étonnamment 8 minutes, mais je vous en propose que 3.
Oui, parce que déjà qu'on déborde. Allez, passons au sujet. À toi, Matt Bell.
Ok, alors les marques de mode de toute taille et spécialisées utilisent la technologie pour mieux comprendre les clients. À mesure que ces efforts de collecte de données deviennent de plus en plus sophistiqués, l'intelligence artificielle remodèlera l'approche des marques en matière de conception et de développement de produits en mettant l'accent sur la prédiction de ce que les clients voudront porter ensuite. En dehors de la mode, les fabricants utilisent déjà l'IA pour générer des prototypes prêts à l'emploi pour des produits allant des pièces d'avion aux équipements de golf. Les logiciels de conception générative devraient représenter un marché de 44,5 milliards de dollars d'ici 2030, selon le consensus des analystes de l'industrie de CBS Insight. Google a déjà testé les designs de modèles IA axés sur l'utilisateur avec Project Muse, une expérience qu'il a déployée en partenariat avec la plateforme de mode Amazon Zalando en 2016. Le projet a formé un réseau de neurones à comprendre les couleurs, les textures, les préférences de style et d'autres paramètres esthétiques dérivant du rapport sur les tendances de la mode de Google ainsi que des données de conception et de tendance fournies par Zalando. À partir de là, Project Muse a utilisé un algorithme pour créer des conceptions basées sur les intérêts de l'utilisateur et alignées sur les préférences de style reconnues par le réseau. Amazon innove dans ce domaine. Un projet Amazon dirigé par des chercheurs israéliens utiliserait l'apprentissage automatique pour évaluer si un article est élégant ou pas. Un autre issu de la branche R&D d'Amazon, NAP 126 de Californie, utiliserait les images pour en savoir plus sur un style de mode particulier et créer des images similaires à partir de zéro. Si cela ressemble à la mode rapide d'Amazon, c'est parce que c'est probablement le cas. En 2017, le géant du commerce électronique a breveté un système de fabrication pour permettre la fabrication de vêtements à la demande. La technologie pourrait être utilisée pour prendre en charge sa ligne Amazon Essential ou les fournisseurs du réseau logistique d'Amazon. Bien sûr, les résultats de la conception de l'IA sans humain ne sont toujours pas prêts pour la piste. De nombreux designs créés pour les utilisateurs du projet Muse, Google étaient des gribouillis et des gribouillis insupportables, tandis que certains rapports sur l'initiative Amazon Lab 126 qualifiait les résultats de conception de grossiers. De plus, l'utilisation d'algorithmes pour générer des vêtements s'est parfois retournée contre lui. En 2019, par exemple, il a été dévoilé qu'un certain nombre de vendeurs de t-shirts en ligne déployaient des robots pour gratter des images sous lesquelles les gens avaient commenté « je veux un t-shirt » comme ça ou autre, et les télécharger sur des places de marché sur un produit vendu et à la demande. Ça a rapidement suscité des critiques et des allégations de violation du droit d'auteur et de vol de propriété intellectuelle. Néanmoins, l'écart entre les conceptions développées par l'IA et celles créées par l'homme se réduisent. En avril 2019, un designer d'IA appelé DeepVogue, qui utilise l'apprentissage en profondeur pour produire des conceptions originales tirées d'images, de thèmes et de mots-clés importés par des designers humains. De toute évidence, de plus, les départements de recherche sont nécessaires avant que les marques ne s'appuient sur des concepteurs exclusifs IA. Mais l'intelligence artificielle aide des marques à créer et à itérer leurs conceptions plus rapidement. En 2018, Tom Hefger a annoncé un partenaire avec IBM et le Fashion Institute of Technology. Le projet connu sous le nom de Reimagine Retail a utilisé des outils d'intelligence artificielle d'IBM pour déchiffrer les connaissances du système d'IA ont ensuite été transmis au concepteur humain qui pourrait l'utiliser pour prendre des décisions de conception éclairées pour la prochaine collection. Stitch Fix a développé plus de 30 vêtements en utilisant la méthodologie de conception hybride. La société a déclaré que les pièces conçues par l'IA se comportaient de manière comparable dans des ventes de gardiens aux vêtements de ses fournisseurs de marques de mode. C'est probablement avec Stitch Fix qui dispose de si vastes trésors de données clients, qui informe son IA grâce à son modèle commercial basé sur l'abonnement et axé sur les commentaires. À mesure de plus en plus que les programmes d'assistance de l'IA progressent, ils aideront la marque à prendre des décisions stratégiques plus intelligentes en matière de développement de produits et de nouveaux secteurs d'activité. Les plateformes de conception 3D comme CLO facilitent également la modification des conceptions à la volée. Ceux-ci permettent aux marques d'utiliser des informations d'intelligence artificielle en temps réel pour modifier les mots jusqu'à la minute où elles entrent en production. À l'instar de l'initiable 126 d'Amazon et du projet MUS, des scientifiques de l'UC San Diego d'Adobe ont décrit un moyen pour l'IA d'apprendre le style d'un individu et de créer des images personnalisées générées par ordinateur de nouveaux éléments qui correspondent à ce style. C'est même dans le même style que le game. On peut customiser son personnage, lui donner un certain type de vêtements, ainsi de suite. C'est le même principe. Le système pourrait permettre aux marques de créer des vêtements personnalisés pour une personne en se basant uniquement sur leur engagement avec le contenu visuel. À un niveau de plus de macro, cela pourrait également permettre à une marque de prédire les tendances de la mode plus large en fonction des données historiques de l'ensemble de base d'utilisateurs. Les prévisions pourraient finalement être utilisées pour guider la conception d'un produit ou d'une étiquette entière. La prochaine ère de la mode est entièrement consacrée à la personnalisation et à la prédiction avec, en plus des données, des algorithmes deviendront des chasseurs de tendances, prédisant et consommant la suite d'une manière qui n'a jamais été possible. En fin de compte, les préférences des consommateurs guideront chaque aspect du processus de conception et de production. Des plateformes comme TrueFit peuvent aider à identifier les types de matériaux que les acheteurs préfèrent, ou même à déterminer à quel point les conditions d'approvisionnement et de fabrication sont importantes pour un acheteur unique. La méthode rapide a créé une mentalité de gratification instantanée. La mode rapide dans laquelle les designs passent rapidement de podium au rayon, des magasins, a bouleversé tous les aspects de ce modèle. Ça permet aux marques de mode rapide de battre les étiquettes traditionnelles sur le marché. Les vêtements et accessoires défiés sur les podiums en septembre et février peuvent être repérés, reproduits par les marques de mode rapide avant même que les originaux ne soient en magasin. Avec une capacité presque en temps réel à obtenir les styles les plus récents sur les étagères, les marques de mode rapide peuvent proposer des variétés plus larges de styles et d'événements pour répondre aux préférences de segments de clientèle plus petits et bien plus ciblés. Ils peuvent également pousser en plus petite série pour tester la demande des clients et vendre des collections pour des durées de vie extrêmement courtes. La montée en puissance à la mode rapide dessine la saisonnalité semestrielle qui a longtemps structuré l'industrie de la mode. Enfin, suivre les marques de vêtements traditionnels font désormais leur début avec 11 saisons par an. Les médias sociaux accélèrent ce cycle, le marketing d'influence et autres stratégie de médias sociaux aide les nouvelles tendances à voyager rapidement, créant une mode rapide que des consommateurs pour des modes hyper bon marché. Pourtant, le mode rapide a un côté sombre. De nombreuses marques de mode rapide fabriquent des vêtements à bas prix et de mauvaise qualité dans des usines aux conditions de travail douteuses, en s'appuyant sur des travailleurs à bas salaire. Les matériaux de bon marché utilisés pour créer les vêtements bon marché sont également chargés de produits chimiques. Étant donné que le cycle de production rapide crée des déchets textiles excessifs, les vêtements bon marché nuisent à la fois aux travailleurs d'usine et à l'environnement. Selon l'Agence de protection de l'environnement, environ 12,8 millions de tonnes de vêtements sont envoyées chaque année dans des décharges. La production de textiles mondiale émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre par an. Plus les vols internationaux, les transports maritimes réunis, l'industrie de la mode est responsable jusqu'à 10% des émissions mondiales de CO2, 20% des eaux usées industrielles mondiales, 24% des insecticides et 11% des pesticides utilisés selon certaines estimations.
Et bien donc, du coup, et pendant ce temps, il y en a qui nous disent de faire pipi sous la douche quand même.
Hein. Bah oui, il faut bien économiser. Hein.
Ouais. Bien que les questions de durabilité de la mode et de la mode rapide en particulier ne soient pas nouvelles, ce qui est nouveau, c'est que la façon dont les clients les plus influents de l'industrie commencent à réagir. Les consommateurs sont conscients des inconvénients à la vente rapide, les acheteurs socialement conscients adoptent les mouvements croissants avec la mode lente, qui se concentre sur des matériaux durables et un travail à une fabrication transparente et éthique. Le passage à des matériaux plus durables n'est pas la seule façon dont l'industrie de la mode adopte des pratiques plus durables. Les plateformes de revente, de consignation, que des Pop, Trudeau et Poshmark, qui permettent aux gens d'acheter, de vendre des vêtements usagés, ont gagné en popularité à mesure que la durabilité devient plus importante pour les consommateurs. L'IA et les technologies avancées peuvent également avoir un rôle à jouer dans la promotion de la durabilité dans la mode. Par exemple, une meilleure prévision de la demande pour permettre une utilisation plus efficace des matériaux, réduisant ainsi le volume de ressources gaspillées. Un problème historique dans les chaînes d'approvisionnement de la mode, H&M a lancé un département d'IA en 2018 pour s'attaquer précisément à ce problème. Un autre domaine de la technologie pourrait être amélioré et celui avec des retours qui ont actuellement une source importante de déchets dans l'industrie de la mode. C'est le segment du commerce électronique en particulier. Au moins 40% des achats en ligne sont retournés. Grâce aux données de capacité d'IA, les détaillants pourraient mieux faire correspondre le comportement d'achat et les préférences de clients, réduisant potentiellement le nombre de global de retours. Les goûts de création d'une marque de mode ont considérablement baissé grâce à la technologie et au commerce électronique. Les marchés de fabrication, d'une part, peuvent s'en tirer parmi l'IA. Pour donner les commentaires sur la faisabilité des conceptions et fournir les estimations sur les coûts et le temps de production, éliminant potentiellement des mois de va-et-vient avec des fournisseurs. Dans le passé, les marques de mode devaient fabriquer des centaines ou des milliers d'articles pour les produire à un prix raisonnable. Dans la production de masse, plus de produits qui équivaut à plus d'argent, les fournisseurs ont tendance à être moins réactifs aux commandes de petites quantités, à moins qu'ils ne soient spécifiquement configurés pour cette échelle. Pourtant, de nombreuses technologies émergent pour rendre la production évolutive et durable réalisable à un rythme plus rapide. Certaines marques internalisent sa production pour accélérer le rythme de fabrication et répondre plus rapidement à la demande des consommateurs. La crise de COVID-19 a également mis en évidence les risques de l'approvisionnement unique. Les entreprises ont vu leur production s'immobiliser complètement pendant la pandémie qui palliait la chaîne, où de nombreuses multinationales s'approvisionnaient en produits pour des raisons de coûts ou d'approvisionnement. Mais dans le cas de diversification des fournisseurs n'est pas possible, l'IA devient de plus en plus essentielle pour la surveillance de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises IA tirent partie du traitement du langage naturel, PNL, pour parcourir les actualités, les bases de données gouvernementales, les revues spécialisées, etc., pour surveiller les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, y compris les catastrophes naturelles ou les accidents d'usine. L'apprentissage automatique est également utilisé pour générer des scores de risque pour les fournisseurs en fonction de leur réseau de chaîne d'approvisionnement. Les marques explorent comment l'impression 3D peut les aider à produire des produits à la demande et à créer des nouvelles voies de personnalisation. La marque des vêtements professionnels de performance, Ministry of Supply, a dévoilé une imprimante 3D en magasin qui crée des tricots personnalisés. Il peut produire un blazer personnalisé en seulement 90 minutes. L'impression des vêtements réduit les déchets en tissu de la production d'ici d'environ 35%. New Balance s'est associé à HP en janvier 2020 pour imprimer des semelles personnalisées basées sur des données biométriques numérisées. A lancé la chaussure, le premier produit du marché issu du concept d'impression 3D de l'entreprise. La chaussure est dotée de lacets imprimés en 3D. Comme toutes les autres industries, l'automatisation et la robotique sont également à venir pour la fabrication de la mode. Ils sont déjà dans l'entrepôt. De nombreuses marques utilisent des systèmes de stockage et de récupération automatisés pour le stockage et le transport des stocks. Cependant, l'utilisation des robots dans la fabrication de vêtements a été plus difficile. La découpe robotisée des tissus est possible depuis des années, mais la couture présente un défi car les robots ont du mal à travailler avec des tissus souples et élastiques. Les progrès de la robotique douce infiltreront la convection dans la confection dans le futur. En attendant, les startups combinent le matériel et le logiciel pour créer des systèmes de couture automatisés. Software Automation, par exemple, développe des sweatbots équipés de bras robotiques, de pinces à vitre et des micro-manipulateurs spécialisés qui peuvent guider un morceau de tissu à travers une machine à coudre avec une précision sublimétrique. Les sweatbots utilisent des caméras spécialisées et des logiciels de vision par ordinateur pour suivre les fils individuels à 1000 images par seconde. Dans un contrat, la startup a ramené les coûts de fabrication d'un t-shirt fournisseur seulement à 0,33 euros la chemise. Oh. En janvier 2019, Software a annoncé les sweatbots qui permet aux fabricants, aux marques et aux détaillants de louer la ligne de travail de couture entièrement automatisée. Le programme vise à permettre aux entreprises basées aux États-Unis de s'approvisionner et de fabriquer aux États-Unis à un coût inférieur à celui de l'externalisation avec une prévisibilité et d'une qualité accrue. Idem pour l'Europe. Les robots sont utilisés depuis longtemps dans la fabrication des chaussures, mais Nike a doublé la fabrication de robots avec son investissement en 2013 dans Grabit. Une start-up robotique utilise l'électroadhésion, une forme d'électricité statique, pour aider les machines à manipuler des objets de manière innovante. En adoptant des systèmes de fabrication qui reposent davantage sur les machines et moins sur les humains, les marques de mode futur accéléreront la production et minimiseront les préoccupations concernant les conditions de travail dans les installations. Cependant, il risque également un retour en arrière potentiel de l'automatisation du main-d'œuvre d'usine, bien qu'une main-d'œuvre notoirement mal rémunérée fonctionnant dans des conditions difficiles.
Eh ben.
C'est vrai, merci, Mabel. Soulève...
C'est vrai que ça soulève pas mal de questions, tout ça.
Moi, j'ai appris qu'il y avait 11 saisons dans le textile. Alors là, je suis tombé de ma chaise.
Ah, quand même.
Sachant que les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le t-shirt que je porte aujourd'hui, il a 26 ans. C'est un pote qui me l'avait filé quand il avait 18. Donc, voilà. Et il est encore. Il a deux trous, il a deux petits trous. Mais...
Ça, ouais, donc, ça se récupère, les petits trous même.
Donc bon, 11 saisons de fringues à l'année, ouais.
Ça interroge.
Je tombe de ma chaise.
Eh ben, pour se remettre de tout ça, je propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Mais oui, et à tout de suite pour l'agenda.
À tout de suite. Sympa, musique, ça aussi.
Mais oui, c'était une petite musique issue d'une démo Amiga qui est passée à la révision online 2020.
Cool. Passons à l'agenda.
Et rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Et oui, Et on a donc la semaine du numérique, les métiers de la communication digitale et du community management. Lorsque des entreprises et des marques investissent le web et les réseaux sociaux, elles font appel à des femmes et des hommes dont le métier consiste à diffuser et partager leurs messages. Texte, vidéo, photo, les communicants digitaux créent du contenu pour développer la notoriété de leur organisation. Découvrez deux témoignages de professionnels de la Drôme qui travaillent au quotidien dans la communication numérique et l'animation de réseaux sociaux. C'est organisé par le Moulin Digital et les pôles emploi de la Drôme. Et normalement, c'est déjà dans l'agenda du Moulin Digital. On a dû leur faire remarquer que ça y était pas, parce que j'avoue que j'avais pas vu passer celle-là.
Ben voilà.
Merci Cécile.
C'est les cordonniers les plus mal chaussés.
Mais oui, mais c'est pareil.
Tu viens des liens ?
Attends, on a oublié de dire quand c'était. C'était mercredi. Ah. C'est mercredi 27 janvier à 14h, et ce sera en direct sur Facebook Live. Alors, du lien
et
des
liens. Et donc, nous passons à lien des liens. Oui, cette semaine, l'émission Libre à vous de l'April, invité Éric Botorel après le rendu du rapport de sa mission d'analyse de prospective relative à la mise en place d'une politique publique de la donnée et des codes sources.
Un séminaire du Collège de France, automatisation de la maintenance du noyau de Linux, l'expérience coccinelle.
100 leçons de design pour 2021.
L'informatique en 1995, un extrait de l'émission Capital sur M6 avec encore des prix en francs.
Génial. Le Framablock dispose d'une chaîne audio avec des lectures de ses articles. Ça changera de eSpeak.
Dogmazic Radio s'offre un nouveau site. Le blog de musique libre nous explique les détails.
Fabriquer le Darmanator, tuto CQ Global. Comment utiliser une IA pour faire un deepfake avec la tronche du ministre de l'Intérieur sur n'importe qui dans une vidéo.
Ça, c'est, ouais, c'est un truc à tester. Hein. Allez, on passe à Astrologeek avec le jingle.
Astrologeek.
Et on frotte la boule.
Sysadmin. Comment ça, l'IP fixe, elle est plus fixe. Mais elle est codée en dur depuis 10 ans partout. J'envoie la facture à qui pour les modifs dans mes scripts?
Pentesté, je vois clair dans ton jeu de paquet. Tout est net avec toi, SSH, ce que je te reproche.
C'est Pentester. Ce que je...
Technophile, Xavier.
Xavier, rends mon IP. Nerd.
Nerd.
Fixe ton IP. Oui, fixe bien ton IP. Tu vois ton IP? Eh ben maintenant, elle vient de changer.
Musicien, comment envoyer un courriel à cet étiseur dans une enveloppe?
Électronicien, prom de reset et prom d'API.
Nanana. Voilà, voilà. Je me suis un peu déchaîné hein, sur l'astrologique.
Mais oui,
notamment
mais
parce
oui,
que
mais
j'ai changé d'adresse IP, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que j'avais la même. Et Free a décidé que je devais changer parce qu'il voulait m'en donner qu'un quart d'adresse IP.
Mais tu n'es vraiment pas free. Content. Tu n'es pas free.
Mais j'ai pas tout compris.
Eh bah oui.
Mais je vais payer qu'un quart du forfait au final, non? Ah bon. Ah,
t'as déclaré
c'est
forfait.
Triste, hein.
Ouais, c'est triste.
Ma foi, est-ce que t'es en IPv6?
Oui, mais j'ai IPv6. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, j'ai redemandé à changer d'IP pour avoir une IP full stack, comme ils disent, c'est-à-dire une vraie adresse IP avec tous les ports. Et du coup, ça a aussi changé mon IPv6. J'ai pas compris, je vois pas le rapport. Enfin, je suppose que c'est dû à la gestion de leur bazar, mais c'est un peu énervant, quoi. Enfin bon.
En tout cas, maintenant nous sommes free et on vous dit à la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Peut-être qu'on parlera de connexion free, non? On ne sait pas.
Je ne sais pas. Si Xavier nous écoute, Xavier, si tu veux venir t'expliquer, il n'y a pas de souci.
En tout cas, on est à ton écoute.
Allez,
à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. Bye bye.
Salut.